Voici le caucus de Boulevard 102.1, disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Bon, je vais me fâcher pour une dernière fois. On se déplace à Longueuil pour une grosse annonce? C'est quoi, capitale nationale? On n'a pas de salle assez grande pour accueillir tout ce beau monde-là?
Ben, on se déplace. Vous savez, la première ministre, son comté, c'est sa rive sud, hein?
Oh, on a une première ministre montréalaise. Ça fait que les grosses annonces se font à Montréal. On aurait dû voter pour Bernard Drinville.
Écoute, j'ai même pas posé la question au cabinet de la PM ce matin parce que j'avais des préoccupations par rapport aux annonces. Mais c'est vrai que, disons, dans les dernières années avec la CAQ, avec M. Legault, il y avait beaucoup de rencontres politiques qui se tenaient à Montréal.
Il y en a eu beaucoup, surtout en fin de règne de Justin Trudeau.
Oui, absolument. Puis en plus, tu sais, Justin Trudeau, on aurait pu croire naïvement qu'étant Québécois,
ben oui,
il pourrait avoir une sensibilité particulière. Oui,
mais tu connais son père.
Non, c'est, je fais un peu des jokes. Mais tout ça pour dire que, évidemment, ben, Mme Fréchette, il y avait l'agenda de M. Carney aussi, évidemment, à prendre en considération. Des fois, c'est le fédéral qui dit, écoutez, on n'a pas le temps de se rendre jusqu'à Québec tellement loin.
Ah, c'est l'enfer.
Surtout quand tu te déplaces en avion.
Oui, quand tu te déplaces en avion, c'est quoi? C'est une petite demi-heure de plus?
C'est
là?
Une demi-heure. Oh my God! C'est long.
Dans un agenda. Mais c'est vrai que Mark Carney fait le tour du monde à chaque semaine. Fait que des fois, ça pourrait...
En même temps, le moins de temps que Mark Carney passe dans un avion, le moins que ça nous coûte en nourriture.
On économise. Ben oui, c'est vrai, parce que 221 000 $ en nourriture pour trois voyages d'avion.
Puis un steak à une couple de milliers de dollars.
Oui, donc c'est peut-être une bonne nouvelle.
Quand ma blonde me dit « Faut couper dans la bouffe, chérie, là, ta barouette, Mark a pas reçu le mémo. »
Tu penses à Mark, hein, dans ce temps-là?
Il a pas reçu le mémo.
Donc, moi, je suis pas si fâchée, parce qu'en plus, c'est une annonce qui concerne beaucoup plus d'éléments que le tramway. C'est sûr, ça fait un peu bizarre, mais que voulez-vous?
Exactement. Mark Carney, ce matin, commentait justement l'annonce à venir cet après-midi, 15h.
Ce sera une grande annonce cet après-midi avec Mme la Première ministre du Québec. Oui, un grand investissement dans plusieurs domaines, près de 10 milliards de dollars d'investissement fédéral au Québec. C'est une grande journée.
Fait que 10 milliards. Donc là, on avait su que c'était 6 milliards pour le transport collectif. Fait que d'après moi, il va avoir, si ma boule de cristal dit vrai, il va avoir un petit 4 milliards pour nos infrastructures.
Ouais, dans le fond, on parle de 5 ententes. Donc, c'est différentes enveloppes. Il n'y a pas seulement le transport collectif. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que j'ai entendu le point de presse de M. Carney ce matin.
Ouais,
j'étais à la télé ce matin, puis il m'a vraiment fait rire parce que c'était ce que j'appelle une mêlée de presse ambulante. Les attachés de presse, ça y est, sans passant. Ils arrêtaient, les répondaient à des questions, les recommençaient à marcher, là, ils se retournaient pour répondre à nos questions. L'attaché de presse suivant en arrière.
Dans ce temps-là, il faut que tu dises, comme Éric Girard, « Excusez-moi, je m'en vais par là! »
Puis là, tout le monde le suit. Oh mon Dieu, je pourrais...
Non, mais c'est parce qu'Éric Girard, sa stratégie, ton macro,
il sauve.
Il le fait tout le temps sur le bord des escaliers. T'es les escaliers de l'Assemblée nationale. Fait que là, il est là.
Puis boum, il disparaît à
Puis là, quand il est allé, il dit « Excusez-moi, je m'en vais par là. » Puis là, il descend tout de suite les marches.
Ben oui, mais il n'y a rien de pire qu'être pris dans un coin. T'es ministre, là, t'es en mêlée de presse, puis t'as nulle part où aller. Il faut que tu passes à travers les journalistes, t'es faite. Mais à l'Assemblée nationale, je vous rassure, il y a un petit papier collant par terre. Les journalistes n'ont pas le droit de traverser cette ligne verte.
Hein, je savais pas ça.
Oui, parce qu'à un moment donné, c'était rendu que tout le monde était en retard. Les caucus ne commençaient pas à l'heure.
C'est ça.
Parce que le monde était pris physiquement. Ouais. Donc, oui. Donc, M. Carney qui disait que ce sera une grande annonce. Il fait pleuvoir les milliards, notre ami Mark.
Il fait pleuvoir les milliards. Bon, je veux régler une chose avant qu'on passe aux compétences provinciales. Pour le tramway, c'est une fichue de bonne nouvelle.
Bien, pour ceux qui sont pour, oui.
Ouais, mais tu sais, moi, j'ai jamais trippé sur ce projet-là. Les auditeurs le savent, j'en parle depuis 3 ans. J'étais plus un adepte du SRB. Mais là, à un moment donné, là, moi, quand je nous vois chiquer dans Guinée, il y a encore su ses 36%, puis là, c'est pas 40%. Puis là, ben là, peut-être bien que là, le tramway va coûter plus cher. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire quand il va coûter plus cher? Puis là, c'est encore de la poudre. Hey, on peut-tu en réaliser un? Puis là, je vais sacrer ce que je fais rarement, un hostie de projet à Québec, là. Puis arrêtez de chicaguener, là. Puis là, envoyez-moi des insultes, si vous voulez, au 418-971-1021. Jamais je n'avais changé de prise de position. Ça fait 8 ans qu'on attend d'avoir un projet dans la capitale nationale. Puis là, enfin, le fédéral va donner de l'argent. On peut-tu juste faire... Bon, c'est le fun. Et nous, on est déjà pris dans les travaux, là. Fait que là, on peut juste l'avancer, là.
Les opposants vont pas se joindre à ta voix là-dessus.
Je sais, mais ça
leur enlève un argument. Mais, tu sais, pour les opposants au tramway, eux de continuer de se plaindre et dire que ça va être un fiasco. Parce que des projets comme ceux-là, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des dépassements, il va y avoir toutes sortes d'aventures. Fait que des produits, je vous l'avais dit, mais tu sais, c'est tellement facile. C'est
ça. Mais au moins, ça ouvre la possibilité d'avoir un débat sur autre chose. Parce que
le financement. Ouais.
C'est ça, pour couvrir la politique municipale. Depuis que Stéphane Lachance est là, non, mais pour de vrai, on en parle tellement du financement du fédéral qui n'était pas au rendez-vous. On revenait avec ça à presque chaque point de presse. Maintenant que le financement du fédéral va être là, peut-être que le discours, ça va être « Ouais, mais ça va coûter plus cher, mais au moins, ça va être autre chose. »
Ouais, bien là, t'es check les travaux, comment ça va. On va en parler tantôt, justement, moi et Mathias. On ferme-tu des rues pendant la rentrée scolaire près de l'Université Laval? T'es chiale là-dessus? Mais là, arrête de chialer sur le mot
matière, parce que ça va être dérangeant, ben, c'est déjà commencé. Mais effectivement, pour le financement, bon, 36% 40%, écoutez, là, y a de l'argent qui arrive d'Ottawa. Et on peut se demander aussi, c'était quoi l'intérêt de M. Carney d'annoncer ça maintenant, avant l'élection et tout ça, parce que c'est quand même un beau cadeau pour Christine Fréchette.
Ben oui.
Je pense que M. Carney a avantage à... disons, faire des cadeaux aux partis non-séparatistes
Québec. Ben oui, c'est sûr.
Ça vient jouer. Et si c'était les libéraux au pouvoir, je ne sais pas si un gouvernement du PQ aurait eu ce cadeau-là à quelques mois d'élection comme tel.
Là, on va surveiller les champs de compétences parce qu'on est directement dans les champs de compétences.
Moi, je surveille ça, moi, les champs de compétences.
Et on écoute à cet effet Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin et Charles Milliard également qui a défendu les champs de compétences du Québec.
Un autre facteur, c'est est-ce que Christine Fréchette a vraiment gardé toutes les revendications que François Legault avait ou est-ce qu'on a laissé aller certains principes au niveau du fédéral qui tentent de décider à notre place dans nos champs de compétences? Moi, je dis aller voir l'entente, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que, comme par magie, ces dossiers-là et cet argent-là commencent à couler.
Et Charles Milliard.
Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vouloir faire respecter nos champs de compétences. Alors, s'il y a des investissements... Puis là, je ne dis pas que c'est le cas ici aujourd'hui, mais en santé, en éducation, dans des dossiers où on a pleine juridiction, on va vouloir négocier à l'avantage du Québec en respectant les champs de compétences. C'est ça, la Fédération canadienne. Puis je vous rappelle qu'être fédéraliste, c'est vouloir que le Canada fonctionne, mais on fait de la politique québécoise, Marc et moi. Donc, l'important, ça va être de respecter les prérogatives du Québec.
Parce que là, c'est la grande question, Antonine. Et c'est la grande question parce que la province de Québec est la dernière à signer le deal pour le transport et pour les infrastructures.
Oui.
Puis là, ce qu'on imagine comme hypothèse, c'est que François Legault était catégorique sur les champs de compétences du Québec, puis il disait « c'est pas vrai ». Que je vais vous faire des redditions de comptes, vous autres, le gouvernement fédéral, parce qu'il va falloir que mon projet de transport réponde à tel critère. C'est à moi à les décider, c'est ma province. Donc là, qui pleut.
Ma nation.
Hein? T'as raison, ma nation. C'est vrai, il faut que je me corrige. Je suis peut-être un futur souverainiste, on ne sait pas.
Écoute, je ne lâche pas.
Peut-être. Mais bref, tout ça pour dire que. Là, qu'il pleuve 10 milliards aujourd'hui sur Longueuil, je le rappelle, pas en capitale nationale, sur Longueuil.
Il pleuve quand même jusqu'à Québec, les milliards.
C'est avec le tramway. Mais qu'il pleuve 10 milliards, on est en voie de se poser la question, coudonc, Christine Fréchette, as-tu accepté des choses que François Legault n'accepte pas?
Est-ce qu'il y a des concessions qui ont été faites? Les détails sont dans les petits caractères. Parce que, puis là, les gens peuvent se dire, hey, on s'en fout.
Ouais, non, mais en effet.
Des compétences.
Mais vas-y,
donne-nous
pourquoi
l'argent.
Il ne faut pas s'en foutre?
Bien, il y a deux raisons. La première, c'est important de faire respecter les compétences du Québec. Parce que quand tu commences à ouvrir la porte, là, puis à dire, OK, ben pour un milliard, moi, je suis prête à sacrifier ceci, cela, ça finit plus. OK? Puis, le fédéral n'est pas correct de nous faire miroiter des milliards en disant « Ah oui, mais par contre, il faut que tu fasses telle concession. » Ce n'est pas du beau fédéralisme,
c'est
les amis. Okay?
C'est anticonstitutionnel.
Oui,
donc, c'est ne pas respecter la Constitution canadienne qu'on l'a, by the way, même pas signé.
Puis après ça, nous, quand on ne la respecte pas et qu'on veut déroger à la Constitution, c'est bien la fin
exactement.
Du monde. Là, on s'entend. Mais il y a vraiment une raison que moi, je n'entends pas beaucoup dans l'espace public et que je veux vous soumettre. Pourquoi c'est important aussi de s'assurer que le fédéral n'empiète pas sur nos compétences? Il y a des raisons financières et d'ordre de l'efficacité aussi. Parce que quand le fédéral nous dit « OK, je te donne un milliard pour ton programme, pour tel programme, mais moi, là, je vais gérer tel bout, j'ai besoin que tu me donnes tel document, j'ai besoin que tu fasses telle reddition de compte, j'ai besoin que tu me transmettes telle donnée. »
T'es en train de me dire de la bureaucratie, de l'administration, des coûts additionnels.
Damn right. La bureaucratie fédérale est obèse.
Mais
sous Trudeau, c'était épouvantable.
Ben, elle a augmenté de 100 000 fonctionnaires.
Mais ça n'a aucun sens. Et c'est facile, en passant, d'augmenter des fonctionnaires. Ben oui. Alors, pourquoi ce serait au fédéral de gérer tout ce qui concerne les hôpitaux, les écoles, la formation professionnelle, des projets de transport collectif? Ça n'a aucun rapport d'être géré par le fédéral.
En effet.
Et à chaque fois qu'on met une condition, on met des fonctionnaires avec qui vont surveiller puis s'assurer de faire les suivis. Et un dollar que tu mets dans l'appareil bureaucratique fédéral, tu fais beaucoup moins de chemin qu'avec un dollar que tu mets au local. On devrait constamment se demander, est-ce que cet argent-là est le plus proche possible du terrain et du citoyen?
Tu me convaincs tellement.
Merci. Donc, c'était mon plaidoyer. Pour ceux dont la Constitution puis les compétences, ça vous intéresse moins, vous êtes des contribuables. De l'argent géré par le fédéral là, dans des grandes tours d'ivoire loin du monde, là, c'est pas efficace.
Non, exactement. Pour la route que je veux refaire à Saint-Augustin, hein, c'est pas efficace.
Ça n'a pas rapport. Et Mark Carney, c'est sûr qu'il y a un intérêt là-dedans en ce moment parce qu'il veut des projets. Là, c'est ça l'affaire avec les transports collectifs. C'est que ça rentre un peu dans toute l'initiative de stimuler l'économie. Mm-hmm. Parce que des projets d'infrastructure, que ce soit en transport collectif, en transport routier, en énergie, peu importe, ça crée des emplois.
C'est clair.
On commande du matériel. Il y a des entreprises québécoises qui peuvent fournir certains matériaux. Donc, la construction, c'est important pour la stimulation de l'économie. Mais donne l'argent, arrange-toi pour que les projets avancent. C'est ça le rôle du fédéral. Ça s'arrête là. T'as pas d'affaires à gérer les virgules par la suite.
Je suis très, 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 très d'accord avec toi. On continue sur Mark Carney. Je vais te faire écouter quelque chose.
OK. Okay?
C'est pas nécessairement une blague, mais c'est quelque chose qui arrive pas souvent. T'es prête?
Oui.
Pourquoi pas suivre le plan conservateur pour sauver 25 sous le litre pour les consommateurs en éliminant toutes les taxes libérales
à la Chambre
pour
des
toute
communes.
L'année.
Le très honorable premier ministre.
Monsieur le président,
Mark Carney
le gouvernement
répond.
A un plan global
à la
afin d'augmenter l'abordabilité pour les Canadiens et les Canadiennes, y compris la suspension
vous allez voir son français
du taxe d'accès sur le gasoline et deuxièmement
attends,
la réduction
de
taxes
mieux.
De classe moyenne. Le bénéfice de l'EPC est essentiel et tous les autres programmes qui compris 20 000 de dollars par famille par année.
De dollars ou de dollars? En tout cas, écoute.
Là, premièrement, j'ai laissé jusqu'au bout parce que je me suis dit, il se pratique pas assez en français. J'ai rien compris.
C'est drôle parce que ce matin, en scrum, en mêlée de presse, je l'ai trouvé bon.
Oui, mais là, j'ai rien compris de son 10-12 secondes. Et ce qui me fait rire aussi à la Chambre des communes, sur ça, je l'ai laissé. À chaque coup que Mark Carney parle, t'as toujours Stephen McKinnon, quand ça finit, puis les applaudissements, qui passe un commentaire. Exactement!
Oui!
T'entends toujours McKinnon en arrière.
Tu touches une de mes cordes sensibles, OK? Tu touches à ma sensibilité. Parce que la période de questions à la Chambre des communes, c'est n'importe quoi.
Je suis d'accord!
C'est du grand théâtre, là.
Ah oui.
Ça a pas
Ils sont
d'allure.
Toujours en train de s'ovationner par-dessus s'ovationner, crier par-dessus.
Il a raison!
Ça l'a.
Non, mais...
Quand je veux rire, j'écoute la période des questions.
Mais moi, je ris, mais je pleure un peu.
Ben oui, parce que c'est notre démocratie, c'est notre parlement, c'est notre institution.
Le Bloc québécois a publié, l'attaché de presse, Julien Coulombe, a publié des chiffres sur X, et ça m'a accroché parce qu'il disait que Mark Carney n'avait que 27 % de taux de présence à la période de questions.
Oh, boy, là, t'es renvoyé de ton école avec ce taux de présence-là.
Moi, c'est pas la note de passage, on s'entend. Bon, non. Trudeau non plus n'avait pas la note de passage. C'était 42 % de présence.
Ouais.
Par contre, Justin Trudeau, à tous les mercredis, prenait toutes les questions. Donc, pas seulement les questions des chefs. N'importe
Parfait.
Quel député se levait, il répondait aux questions.
C'est bien. Bon, puis là, je me dis, bon, au moins Carney, c'est pour des missions économiques. Justin, des fois, c'était pour aller se déguiser en Inde.
Ben, c'était des missions plus culturelles, on va dire
ou des missions pour planter 2000 arbres qui ne se plantent pas.
Ben là, ça a fait du compost, ces arbres-là. On
ben
a
ouais.
vu ça cette semaine, c'est
Exactement.
Extraordinaire. Stephen Harper, c'était 65 % de taux de présence.
Ça, honnêtement, je trouve ça très, très, très bon pour un premier ministre parce qu'un premier ministre a à gérer le pays puis à être ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, 65 % c'est très bon.
Ça pour dire que quand j'entends la période de questions puis les questions, des fois, un petit peu biaisées et les effets de toge puis les coups de théâtre puis tout ça, je comprends un gars de finances, comme M. Carney se dit « Hey, j'ai-tu d'autres choses à faire que d'aller participer à une petite pièce de tee-out? » Moi, ça me tente pas.
C'est vrai.
L'affaire, c'est que la période de questions, ça devrait être quelque chose d'important. qui revêt une certaine dignité. C'est le moment fort des oppositions et c'est un moment de reddition de compte. Encore faut-il que ce soit fait de manière à ce qu'on ait des réponses aux questions. Et quand on compare la période de questions à Ottawa versus à Québec, on est dans deux univers complètement différents. Ben oui, des fois, il y a des niaiseries à Québec, puis là, ça fait les nouvelles, puis on ne voit pas toujours toutes les périodes de questions, personne n'écoute ça au quotidien, puis des fois, on voit juste la garderie là, qui fait les nouvelles. Mais il y a vraiment une plus grande dignité à Québec. Premièrement, il y a moins de questions. Et tu as plus de temps pour poser ta question, et les ministres et le premier ministre ont plus de temps pour répondre à la question. Il n'y a plus d'applaudissements.
En effet.
Donc là, on perd plus notre temps à se « Oh, bravo! » Puis il n'y en a plus de Stephen McKinnon là, qui fait ses commentaires à côté.
Exactement!
Ça, c'est un bon joueur là, d'équipe. Là, tu sais, c'est celui qui encourage
tout le temps.
Le capitaine.
Ça va être François-Philippe Champagne, Lightbound, Mark Carney. T'entends toujours McKinnon dire après « C'est vrai, ça! »
C'est vraiment ridicule. Mais ce qui fait qu'on perd un temps précieux, que ça devient qui va dire la ligne la plus assassine, mais est-ce qu'on va vraiment chercher des questions puis est-ce qu'on fait vraiment de la reddition de compte? Et à Ottawa, on le sait, l'imputabilité, elle est moins présente. On pose des questions, personne ne répond, on passe à autre chose. Mais il ne se passe rien. Et moi, je pense que ça contribue directement à des scandales financiers, des scandales politiques.
Ben oui.
Parce que,
regardez,
les chauffeurs à rabais, le Bloc pose des questions, ils se font pas répondre, on passe à un autre appel, puis c'est pas parce qu'ils travaillent pas fort.
Hey, mais je veux pas être chauvin, là, mais t'sais, moi, je les écoute beaucoup, les périodes de questions, OK? À l'Assemblée nationale, honnêtement, là, t'sais, je te dirais, les libéraux puis le PQ sont pas mal égales, ça a rigueur à l'heure actuelle versus la CAQ. Ouais. Québec solidaire, ben, c'est peut-être parce que je les trouve un petit peu trop, des fois, dans leur monde, que je les trouve moins pertinents.
Mais ils posent des bonnes questions.
Mais du côté fédéral, c'est clairement le Bloc québécois, honnêtement, les meilleurs.
Ben, qui fait vraiment le travail.
C'est vraiment eux autres.
Les conservateurs, ils vont beaucoup avec des lignes de communication assassines. Ouais. Et je comprends parce que tu veux faire la clip. Tu veux, tu sais, c'est la période de questions, c'est ça que tu vas prendre des extraits.
Oui, mais ça manque de substance.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné aussi, l'autre affaire, c'est qu'ils ont décidé de toujours poser les mêmes questions.
Ben, c'est ça. Fait que là, c'est facile pour les libéraux.
Oui. Puis ça devient redondant. Fait que là, Mark Carney, il dit « Ouais, mais je verrais bien la période de questions, ils vont tous me poser quatre mêmes questions que d'habitude. » Donc, je trouve que tout le monde participe un peu. Je dis tout le monde, pas le Bloc fait vraiment un excellent travail, mais tout le monde participe un peu à faire de cet exercice-là quelque chose d'inutile. Et honnêtement, ça contribue à la non-imputabilité au palier fédéral. Et on envoie beaucoup d'argent à Ottawa, là. Moi, je m'excuse, mais je trouve ça sérieux. Donc, on devrait réduire le nombre de questions. Puis quand un ministre répond pas à une question, à Québec, là, si, mettons, je pose une question puis que le ministre il dit n'importe quoi en réponse, il va avoir des articles de journaux. Puis le lendemain, on va reposer la question. On va dire « j'ai pas eu la réponse ». Tu vas payer un coût politique. Tu peux pas ne jamais répondre. Christine Fréchette, là, dans ses crédits, là, elle n'a pas répondu à quelques questions. Mm-hmm. Paul Saint-Pierre Plamondon, il posait des questions la semaine passée sur le projet de Nemaska Lithium. Bien, ça a fait les nouvelles qu'elle n'a pas répondu.
Il y a la rigueur médiatique et journalistique aussi qui fait une différence.
Bien, c'est ça. Puis je veux pas pointer du doigt les journalistes, mais c'est l'ensemble de l'œuvre. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
Mais le problème aussi, c'est que c'est la population qui perd sur le long terme avec ça. Tu sais, t'en parles. Au final, la Chambre des communes actuellement, le premier ministre n'y est jamais. Puis le parti d'opposition, la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est des clips pour les réseaux sociaux.
Ben, ça, donc, qui porte la voix des citoyens à un moment donné? Où sont les réponses?
En effet.
Moi, je veux des réponses à des questions. C'est ça, c'est une période de questions, c'est pas une période de galage puis de lignes de com, là.
Je suis entièrement d'accord avec toi. On termine le caucus du lundi au jeudi avec Antonine Iaccarini à l'émission On en jase. Antonine, on est dans une récession technique. On écoute Pierre Poilievre à ce sujet ce matin.
On est le seul pays en récession. Il y a 112 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi et on doit se concentrer sur les enjeux ici au Canada.
Pas de solution, évidemment.
Ben, bon. Pas rien que ça, il dit on est en récession. Quelle belle rigueur. On est en récession technique. Oui. Il y a une nuance.
Ben, c'est ça, il y a une nuance. Bon, on apprenait que Donald Trump diminue des tarifs sur l'acier, l'aluminium. On t'en parlait tout à l'heure. Les infrastructures aussi qui nous aident à passer au travers. Dominique Leblanc qui est en négociation à Washington. Là. Moi, je veux te parler de quelque chose. Là, j'entends plein de monde dans les médias dire... Regardez, le Mexique est en avance sur nous autres. Nous autres, on fait mal de se braquer contre les États-Unis. On peut-tu attendre les résultats avant de déchirer notre chemise?
Ouais, moi, j'ai d'autres choses que j'attends.
Vas-y donc.
Les élections de mi-mandat.
Ben, c'est ça.
Parce que Je comprends les gens.
Je pense qu'on parle le même langage. Vas-y.
Bon, je comprends les gens. Premièrement, là, ça a l'air que Donald Trump va baisser les tarifs. Quand il fait des annonces, on ne sait jamais exactement comment ça va se décliner. Bon, on pourrait être cynique puis dire probablement qu'il a acheté des actions dans des compagnies d'aluminium la semaine passée. Fait que là, il faut qu'il fasse monter le cours. Ah, oh, excusez, non, faut pas dire ça.
Ouais, mais c'est pas tant cynique, tant qu'à moi.
En tout cas, à suivre. On sait les négociations avec les États-Unis, ça va pas très bien. Non. Soyons honnêtes. Dominique Leblanc est à Washington aujourd'hui. Les Américains, croyez-le ou non, sont très fâchés contre nous. Puis quand je dis Américains, je parle pas de monsieur, madame, tout le monde. Ils ont même pas connaissance qu'on existe, là. Mais à Washington, les gens sont fâchés contre nous. Mm-hmm. Ils ne comprennent pas pourquoi on est fâchés. Ils comprennent pas pourquoi on vend plus d'alcool américain sur nos tablettes.
Ouais,
ils comprennent pas pourquoi on va pas voyager au Vermont, en Floride, dans le Maine.
À coût de 35 puis 25 % de tarifs, c'est passé.
Voyons.
C'est pas grave, à coût de, on a retiré la taxe sur les services numériques.
Voyons, Jeff. Donald Trump qui revient avec le 51e État américain sur Truth Social aujourd'hui. Pourquoi
ça nous fâcherait?
Voyons.
Ben voyons, donc, c'est bizarre.
OK, on a enlevé les contre-tarifs, on a enlevé la taxe sur le numérique. Donc, on a déjà fait notre bout de chemin, mais là, il faudrait en faire encore.
Puis on n'a rien eu en échange.
On n'a rien en échange, mais là, il faudrait en refaire d'autres.
Oui, puis il faudrait surtout qu'on vienne s'aplaventrir
et
aller signer un deal vite, là, le plus rapidement possible. Hey, c'est pas une course. Moi, que le Mexique soit en avance, ça me fait ni chaud ni froid.
Ben, moi non plus, je suis tellement content de t'entendre.
Bon, maintenant, il faut rester rationnel. Être fâché, c'est pas une stratégie.
Non.
Par contre, être fier puis patient, ça, c'est une stratégie.
Je suis d'accord.
Quand un adversaire, en fait, qui devrait être un partenaire, ne négocie pas d'un point de vue gagnant-gagnant et que c'est juste gagnant-perdant, c'est pas pareil que de faire une vraie négociation. Ça, c'est la première des choses. Et quand tu fais une concession et que tu n'as rien en échange, qu'est-ce qui te reste? Parce que c'est ça, une négociation. C'est je te donne un peu, tu me donnes un peu, on trouve un terrain d'entente. Quand tu as un président des États-Unis qui dit « Vous allez devenir le 51e État, je veux détruire votre économie, je veux rapatrier l'industrie automobile qui est si importante à vos yeux chez nous », il n'y en a pas de négociation possible.
En effet.
Donc, moi, j'ai bien des critiques contre M. Carney, puis contre Dominique Leblanc, puis contre la gang. Mais honnêtement, ce n'est pas une négociation qui est normale. Et c'est là que la patience embarque. Il ne faut pas être fâché, il faut être stratégique. Le temps est notre allié. La CEUM existe encore pour l'instant. Il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent l'automne prochain. M. Trump, c'est la lumière au bout du tunnel pour nous, là. C'est son taux d'impopularité en ce moment. Les sondages sont catastrophiques pour M. Trump. L'économie ne va pas super bien. La guerre en Iran a vraiment contribué à faire une scission dans le mouvement MAGA.
Ouais.
La question d'Epstein aussi, en passant, ça ne va pas très bien. Donc, pourquoi on se garocherait à faire un mauvais deal dans ces circonstances-là? Mm-hmm. Alors qu'il ne nous donnera rien en échange, là.
Pour donner plein de pouvoir à Trump, qui pourrait garder une chambre majoritaire à mi-mandat, puis après ça, qui pourrait bien nous recalifier des tarifs comme il veut.
Absolument.
Parce qu'il s'en sac. Ce qu'il faut, c'est que Trump perde la majorité et au Sénat et à la Chambre des communes. Fait que pour ça, il faut être patient. Puis je suis d'accord avec toi, c'est là que la patience devient une stratégie. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'entends les gens dire « On est donc bien con, au Canada, le Mexique est en train de négocier. » Ben, ça
le Mexique n'est pas dans la même position.
Ben non.
Puis, soyons clairs, c'est dur. C'est pas le fun. Il y en a des conséquences.
C'est clair.
Mais c'est quoi l'alternative? C'est que vous allez donner des gains? Vous allez l'aider en plus à avoir des meilleurs résultats aux élections de, de mi-mandat? Non. Donc, patience.
Puis les conséquences sont là, sont réelles. On est en récession technique. On a des entreprises de bois d'œuvre qui ont fermé. On a des entreprises d'aluminium qui ont de la difficulté. Même
tout
chose
ça,
pour l'acier. Les meilleurs ont réussi à s'en sortir à coup de stratégie, puis parce qu'il y avait déjà des bons contacts avec les États-Unis. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ferment. C'est plate. J'ai l'air bien insensible dans mon studio de radio présentement. Ça me touche énormément. Mais qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, c'est le prix à payer, puis c'est pas nous autres qui l'a décidé, ce prix-là. Puis on aurait. Ça serait encore plus tough si on signait un mauvais deal.
Bien, exactement. Donc, soyons patients. C'est difficile. Entraidons-nous. Les gouvernements doivent soutenir les industries qui passent une mauvaise période de temps.
Oui.
Et on met tous nos chapelets sur la corde à linge pour les élections de mi-mandat de l'automne.
Exactement. Antonine Iaccarini, toujours un bonheur de te parler.
On
se parle demain, bien sûr. Avec plaisir, au retour de la pause, on fait quelques manchettes. Et par la suite, on va vous parler de la loi 101 qui s'étend aux achats des municipalités. Anto, qui s'en va. Même Charles Milliard et PSPP pensent la même chose là-dessus. Un deuxième point en commun entre le chef libéral et le chef du PQ.
Habituellement, quand le Parti libéral et le Parti québécois, les deux disent « Ouais, ça, c'est une mauvaise chose. » C'est que la CAQ l'a un peu échappé.
D'après moi, oui. Et toi, tu as parlé avec Marc-André Palin, qui est justement le directeur général de l'Association des directions municipales. Hein, je pense que c'est bien
oui,
ça.
Oui, exactement.
Exactement. Donc, tu vas nous faire un bon dossier là-dessus, Mathias. Au retour de la pause, on en jase sur Boulevard 101. On en jase.